Bonsoir à vous tous.
Bonsoir.
Alors ce soir, on est dans l'étape 4. Alors c'est une étape charnière, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on va continuer à travailler sur les réflexions de la semaine dernière. Alors je vous encourage à le faire sérieusement, hein, c'est costaud. C'est pour ça qu'on n'en fait pas cette semaine, parce qu'il vaut mieux prendre son temps et le faire sérieusement, d'accord? Parce que ce que vous allez mettre à jour avec ces questions-là, eh ben en fait, c'est ce que vous allez mettre en guérison pendant le reste de l'enseignement. Donc, j'ai envie de dire, plus vous faites ça sérieusement, et plus vous allez apporter la guérison dans votre vie. Amen. Donc, faites-le sérieusement, et vous allez voir les fruits qui vont sortir de ce travail. Ce soir, on va regarder notre histoire à la lumière des Saintes Écritures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça va nous permettre de revoir notre histoire, mais avec des conceptions nouvelles. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, dans l'étape 1, on a vu un petit peu le péché et la puissance du péché dans la vie d'un être humain. Et que tous, on a été affecté et infecté. Et donc, c'est important d'en prendre conscience, hein, que le péché domine la vie des êtres humains. Pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est parce que c'est une généralisation et c'est pas ramené à votre personne, à une seule personne. Comprenez? Si c'était que vous, on dirait, bah ouais, mais moi, je suis spécial. Moi, j'ai eu des problèmes dans la vie, les autres n'ont pas eu. Et on pourrait dire que c'est comme si qu'il y avait une malédiction sur nous et que nous, on est vraiment à part et qu'on a des gros, gros problèmes. En fait, les Écritures nous montrent que non, ce n'est pas le cas. C'est chaque être humain qui, malheureusement, hein, a vécu des moments difficiles à cause de cette présence du péché, à cause de cette puissance du péché. Alors, chacun a vécu des choses différentes, avec des degrés différents, mais en fait, tout le monde, si vous prenez un café avec chacun de vous, ben, vous verrez que chacun a une histoire, et dans son histoire, il y a des choses difficiles. Des choses qui ont été dites, des choses qui n'ont pas été dites, mais en tout cas, ça a conduit la personne à construire sa personnalité, et malheureusement, ce qu'elle a vécu impacte sa personnalité. Donc aujourd'hui, comprenons les Écritures, comprenons que tout ça, finalement, n'est pas de notre faute. On n'a pas demandé ça, on l'a subi. Hein. Mais le but du jeu, c'est qu'on ne va pas traîner ça toute notre vie. La Bible, elle dit que si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Et donc, ce qu'on a besoin en Jésus-Christ, c'est de vivre la vraie liberté. C'est de vivre une vie abondante. Il a promis, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Hein? Et c'est ça qu'on a besoin. Et quelquefois, malheureusement, on reste prisonnier de notre passé. On reste prisonnier des blessures qu'on a vécues. Et on n'arrive pas à décrocher, on n'arrive pas à s'en défaire. Et donc on vit une vie chrétienne, mais ce n'est pas la vie chrétienne que Dieu a prévue pour nous. Donc, comprendre que tout ça n'est pas de ta faute. Mais par contre, maintenant, tu vas être responsable de ce que tu fais. Maintenant, ton présent, ton avenir, il dépend de toi. Comme j'ai mis cette semaine, on n'est pas spectateur de notre vie. On est acteur de notre vie. Alors, je ne veux pas minimiser, et c'est pour ça qu'on passe autant de temps là-dedans, je ne veux pas minimiser ce qui vous est arrivé. Mais quand on vient à Christ, Christ nous dit que maintenant tu es une nouvelle créature et que Dieu est capable de nous guérir de ce qui s'est passé. C'est ça l'espoir. L'espoir, c'est que Dieu est capable de guérir ce qui s'est passé en nous. Et on va voir ce soir, on va revoir un petit peu le fil de notre histoire et mieux comprendre que ben, finalement, on n'est pas pire qu'un autre. On n'est pas pire qu'un autre. Hein? Et que maintenant, ben, on a... on a reconnecté avec notre Papa Céleste, maintenant nous sommes vraiment enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et à ce titre-là, ben, maintenant, on bénéficie de tout l'amour que l'on n'a pas eu quand on était plus jeune. On bénéficie de toute la guérison que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous comprenez un petit peu où est-ce qu'on en est ? On est à cette étape charnière où on va commencer la guérison. Mais pour mettre la guérison en place, il faut savoir qu'est-ce qu'on a à guérir. Et donc des choses qu'on ne voulait peut-être pas regarder, des choses qu'on ne voulait pas voir, ben, c'est le moment de les regarder. C'est le moment de mettre ça à nu. Pourquoi ? Ben, pour que Dieu vienne poser sa main là-dessus et te guérir de façon à ce que tu rentres dans une repentance, dans un pardon, tu vois, afin de libérer toutes ces choses-là. Le but du jeu, c'est de pas garder ça pour ta vie entière. C'est ça. Le but du jeu, c'est de les mettre à jour et après, on va avancer dans les étapes pour que Dieu guérisse tous ces moments-là et que tu ne sois plus dans le piège de l'ennemi qui veut te garder prisonnier, qui veut te garder dans une image de toi qui a été construite par les étapes de ta vie, mais ce n'est pas forcément une bonne construction. Parce que si tu regardes ce que tu es aujourd'hui par rapport à tout ce qui t'est arrivé, alors il y a de grandes chances que tu aies une mauvaise estime de toi, que tu aies une petite confiance en toi. Mais encore une fois, ce qui t'est arrivé quand tu étais plus jeune ne détermine pas ni ton présent ni ton avenir. Et c'est vers ça qu'on va aller, hein, de ne plus être prisonnier de son passé, ne plus être prisonnier des gens qui ont traversé ta vie et qui t'ont fait du mal, ne plus être prisonnier des circonstances de la vie, parce que malheureusement, la vie est remplie de circonstances défavorables. Donc c'est tout ça qu'on va revoir à la lumière des Écritures et pour aller dans les prochaines étapes, ben, vers une vraie délivrance, hein, et ne pas faire comme si tout va bien, et alors qu'en réalité, eh ben, ça détermine encore ton comportement, tes paroles, ce que tu vis. Comprenez ? Tu as le droit à un grand amen ?
Amen.
Amen. Merci. On va écouter ce petit chant qui nous dit que on est vraiment enfant de Dieu. On n'a pas choisi, c'est Dieu qui nous a choisis. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que nous ne sommes pas le fruit du hasard. On n'est pas le fruit du hasard. On a été choisi par Dieu. Et Dieu a des plans merveilleux pour chacun d'entre nous. Il faut y croire. Il faut y croire. Il ne faut pas se laisser embobiner par l'ennemi. Hein? Et il ne faut pas se laisser pourrir la vie par les choses qui nous sont arrivées. Amen.
Amen.
Ce chant nous dit, Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis ton enfant. Je crois que si on comprend ça et si on le vit, on a tout compris de l'Évangile. Dieu éternel, il nous faut regarder notre vie avec les lunettes de l'éternité. Parce que si on regarde notre vie juste à l'aube de cette terre, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. En réalité, sur cette terre, parce que cette terre est déchue, parce que le monde est déchu, ça va être difficile. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, il y aura des saisons plus ou moins difficiles. Mais si on regarde à la lumière de quelque chose qui ne se comprend pas intellectuellement, mais qui se reçoit par la foi, de dire, il y a une vie après cette terre, et elle est éternelle. Et de savoir qu'on a été choisi par Dieu pour vivre cette vie éternelle, ça permet, dans les moments difficiles, ben, de tenir bon et de dire, Seigneur, que ton retour revienne rapidement. Ouh ! Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup merveilleux, de beaucoup plus grand derrière ça, qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Mais c'est cet espoir-là qui nous amène à dire, eh ben, on va vivre sur cette terre. Il y aura des bons moments, il y aura des moments plus difficiles, il y aura des saisons plus difficiles. Mais Seigneur, je veux aller jusqu'au bout. Je veux aller avec toi dans ta gloire. Il ne faut pas perdre de vue le pourquoi nous sommes sur cette terre. Nous choisissons sur cette terre d'être avec Dieu ou d'être sans Dieu pour l'éternité. Hein? Parce que notre âme, lui, il ne va pas disparaître. Notre âme, il va continuer. D'accord ? Mais il y aura deux chemins. Et le bon chemin, c'est le chemin avec Dieu. Donc, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que, un, tu as été choisi, et ce n'est pas en fonction de tes talents, ce n'est pas en fonction de tes réussites, ce n'est pas en fonction de tes échecs, ce n'est pas en fonction de tes capacités. Tu as été choisi. C'est une question de foi. Seigneur, tu m'as choisi. Mais tu as été choisi pour vivre avec Jésus. Jésus, il t'aime. Et c'est important de comprendre que cet amour de Dieu, mais c'est l'amour qui va nous faire tenir dans les moments difficiles. C'est cet amour qui n'a pas une valeur humaine. Hein. Les Grecs ont plusieurs mots pour l'amour. Nous, on n'en a pas beaucoup, on n'en a qu'un. Mais les Grecs en ont plusieurs. Et si je retiens les deux verbes qu'on utilise le plus souvent, eh ben, c'est philéa, l'amour humain, l'amour qu'on peut se donner l'un à l'autre, mais qui est bien imparfait. Et puis nous avons agapé, qui est l'amour de Dieu. Et recevoir l'amour de Dieu et vivre l'amour de Dieu, c'est ce qui va faire toute la différence. Parce que si on s'arrête à l'amour agapé, alors quand on sent qu'on n'est pas aimé, eh ben, on va perdre pied. Mais quand tu sens que tu n'es pas aimé, mais que tu as l'amour de Dieu en toi, alors tu pourras passer l'épreuve plus facilement. S'attacher à Dieu, vivre cet amour-là, parce que c'est une question de relation, puisque Romains 5,5 nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc c'est la relation avec Dieu, une relation intime avec Dieu, est vrai, qui fait que nous recevons cet amour de Dieu qui nous permet de passer les difficultés. Et c'est important de ne pas vivre uniquement avec cet amour philéa, parce que sinon, eh ben, quand ça ira bien, bah, peut-être que ça ira, merci Seigneur. Mais quand ça ira mal, comment on va se raccrocher ? À quoi on va se raccrocher ? Alors que là, on a l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est guérissant. Et tu n'as pas été choisi par hasard. C'est ce que nous dit le psaume. Tu n'es pas le fruit du hasard. Et le psaume 139, eh ben, il est clair. Hein, il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Et là, regardez bien, tissé dans les profondeurs de la terre. Incroyable. Hein, Dieu nous avait choisis. Alors, il faut l'accepter par la foi, parce que je suis incapable de vous le démontrer intellectuellement. Mais on a été choisis, on a été tissés dans les profondeurs de la terre. Avant que la terre elle soit créée comme on l'a dans la Bible, on était déjà dans le cœur de Dieu. On était déjà prévu pour être sur cette terre. Et ouais, c'est incroyable. Quand je n'étais qu'une masse informe, donc là j'ai commencé à naître dans le ventre de ma mère, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est beau, hein, ça veut dire que tous ceux qui ont donné leur vie à Dieu, eh ben, ils sont enfants de Dieu et ils ont été choisis par Dieu.
Amen.
Amen. Ah oui, ça mérite un amen. Et regardez dans Jérémie, tu vois, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu, c'est un Dieu d'éternité. C'est un Dieu qui n'a pas été créé. Il est incréé. Il a toujours existé. Hein? Et là, il dit, avant que tu n'existes dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Donc, ne crois pas que tu es le fruit du hasard. Ça n'existe pas. Tu as été choisi. Amen. Tu n'es pas une erreur. Tu es là parce que Dieu est avec toi. Il a un projet pour toi. Et que de toute façon, si tu tiens bon, si tu t'accroches, eh ben, tu iras avec lui pour l'éternité. Et nous irons avec lui pour l'éternité. Amen. Accepter que chaque personne, comme on l'a dit tout à l'heure, a été affectée et infectée par le péché, va nous permettre de mieux nous accepter tous ensemble, de comprendre que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, parce que chacun de nous a été victime du péché. C'est la finalité de la compréhension du péché. En fait, comment en vouloir aux autres? Comment personnellement je pourrais en vouloir à mon père alors qu'il ne connaissait pas Dieu et que lui-même était victime du péché? C'est compliqué. C'est compliqué d'en vouloir. Je peux en vouloir. Mais en réalité, mon père était victime. C'est une victime. Et si je remonte mais la génération de son père que je n'ai pas connue, ben j'imagine que c'était une victime. On est tous des victimes. Et on s'entretue alors qu'on est tous victimes. Il ne faut pas se tromper de cible. La cible, ce n'est pas mon père. La cible, c'est le péché. Eh oui, quand on réfléchit un peu. Le problème, c'est pour ça qu'on a besoin de revoir tout ça à la lumière des Écritures, parce que sinon, on ne pardonnera jamais. Parce qu'on dira non, ce qu'il a fait là, c'est de sa faute. Alors oui, évidemment, c'est de sa faute, il a sa responsabilité. Mais le mal qu'il y avait en lui, le mal qui le poussait à faire des choses qui n'étaient pas bonnes, soit ce mal-là, là, ben, il l'a hérité du péché. Vous comprenez? Donc, je peux en vouloir à mon père, mais mon père, ben, il ne savait pas ce qu'il faisait en réalité. Alors, pour une partie, oui, mais pour une partie, non. Quand on fait du mal à quelqu'un, ben, quelquefois, on ne s'en rend pas toujours compte. Mais on le fait quand même. Mais il y a quelque chose en nous qui nous pousse à le faire. Et c'est ce quelque chose-là qui est commun à tous les êtres humains. Une puissance qui t'emmène à faire le mal. Il faudrait être fou pour croire le contraire. Il suffit d'ouvrir le journal, il suffit d'écouter le journal télévisé, et puis ben, vous comprenez que ben, c'est partout. C'est partout, c'est partout, c'est partout. Nous avons tous une revanche à prendre, mais pas contre les êtres humains. On a une revanche à prendre contre le péché, en lâchant prise, c'est-à-dire en acceptant que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes appelés à user de miséricorde et de compassion avec les autres. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais on est appelé à ça. Et si on veut vivre dans la vraie liberté, si on veut vivre dans la paix, je sais pas si ça vous intéresse, mais moi, vivre dans la paix et vivre dans la liberté, mais c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est qu'on ne peut pas garder prisonniers les gens qui nous ont fait du mal. C'est impossible. Si tu les gardes, mais tu ne pourras pas vivre en paix. Est-ce que vous comprenez la logique? Elle est simple. Hein, j'appelle ça l'effet qui se coule. Hein, il y a deux effets. Non seulement tu as été victime de choses horribles, pour certains, mais en plus de ça, mais ça continue à te faire mal parce que tu le gardes avec toi. Relâche-le! Dis-lui, va-t'en! C'est bon, j'ai compris. J'ai compris que toi aussi, tu as été victime du péché. Et puis, qui fera justice d'après vous? Mais c'est Dieu. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est moi, au tribunal de Christ, c'est moi qui fera justice. Tu vois? Donc, relâche-le, parce que sinon tu vas rester prisonnier de ça. Et croyant le retenir, je ne sais pas pour quelle vengeance, parce que tu veux faire mal, mais en fait tu te fais mal à toi. Tu te fais mal à toi et tu t'en rends pas compte que tu te pourris la vie avec tout ça et que tu n'arrives pas à lâcher prise. Et tant que tu ne lâcheras pas prise, eh ben malheureusement, tu ne pourras pas goûter à cette liberté et à cette paix. On pardonne. Amen. On pardonne avec principalement ces deux versets que j'ai déjà cités. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre à celui qui est en train de te décevoir. Elle est là, la réalité. Tu en veux à cette personne-là? Pourquoi? Parce que tu crois que toi, tu es meilleur qu'elle? Parce que tu crois que toi, tu n'as rien à te reprocher? Non. On est tous victimes du péché. On a tous des choses à se reprocher. C'est ça, la clé. Et la vraie réponse au problème des relations humaines, elle est celle-ci. C'est Christ à la croix qui dit « Père, pardonne à celui ou à celle qui est en train de me faire du mal. Car à cause du péché et de son aveuglement, il ne sait pas ce qu'il fait. Alors c'est spirituel, d'accord ? Parce que oui, on peut dire, il sait bien ce qu'il fait là. Mais la puissance qui l'anime, ça, il n'a pas conscience. Et à la croix, tous ceux qui ont crucifié Christ, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils étaient en train de crucifier Christ. Mais en réalité, ils étaient sous l'emprise du diable. Et en réalité, ils étaient poussés à faire du mal à Christ, un innocent. Un innocent, il n'avait rien fait de mal. Tout ce qu'il a fait, c'est guérir les malades. Tout ce qu'il a fait, c'est faire le bien. Et qu'est-ce qu'il a récolté ? Du rejet, de l'abandon, de l'humiliation. On l'a humilié. Il a été victime d'injustice. On lui a arraché la peau avec un fouet, avec des bouts d'os au bout. Et quand ça claquait, les bouts d'os rentraient dans sa peau et on arrachait le fouet. On a arraché sa peau. C'est horrible. Pour rien, alors qu'il n'avait rien fait. On mesure la méchanceté humaine. On mesure la puissance qu'il y a chez l'être humain. Et qu'est-ce qu'on peut y faire ? Malheureusement, on ne peut rien y faire. Mais on ne veut pas, nous, être victimes de ça. C'est-à-dire que si on garde le non-pardon, si on ne le fait pas, eh ben malheureusement, non seulement on nous a fait du mal, mais en plus de ça, ça continue à nous pourrir la vie. Père, pardonne-leur. Pardonne à celui ou à celle qui me fait du mal. Car à cause de son péché, à cause du péché, à cause de son aveuglement, il ne sait pas en réalité ce qu'il fait. Moi, j'ai fait des choses dans ma vie quand j'étais adolescent. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Je ne suis pas fier. J'ai fait des choses et je ne savais pas en réalité pourquoi je le faisais. Je ne sais pas. Mais ce n'était pas chouette. Mais j'étais poussé par le faire. Je n'en avais pas conscience. Aujourd'hui, j'ai honte de ça. Heureusement que Dieu m'a pardonné. Alléluia. Et que je ne reste pas avec ça. Mais quand je regarde à ma vie, je dis, waouh, mais c'est fou. Quand tu réfléchis, tu te dis, mais comment tu as pu faire tout ça ? C'est incroyable. Découvrir nos propres zones d'ombre. On a fait plusieurs fois la fenêtre de Johari. Découvrir nos propres zones d'ombre, nos failles, nos faiblesses, nos souffrances, nos douleurs. Demander la guérison au Seigneur. Apprendre à nous accepter, à nous pardonner parce que nous n'avions pas conscience des réalités spirituelles. Voilà la clé. La clé, c'est de regarder la réalité en face et de dire, voilà ce qu'on m'a fait, voilà ce que j'ai subi, mais aujourd'hui, à la lumière des Écritures, mais tout ça, j'y suis pour rien. On me l'a fait. J'y suis pour rien. Tu comprends ? Alors, est-ce que aujourd'hui, je vais être malheureux ? Je vais être malheureuse pour tout ce qu'on m'a fait et que ça définit qui je suis ? Ben c'est le comble. Non seulement on m'a fait du mal, mais en plus de ça, aujourd'hui, ce que je suis, eh ben c'est à cause de ce qu'on m'a fait. Mais ce n'est pas possible. Quelle valeur tu vas retirer de toi ? Quelle estime de toi tu vas retirer de toi si tu compares ce que tu es, tu l'évalues par rapport à ce qu'on t'a fait ? Comprenez comment l'ennemi nous emmène dans un piège. Comment il nous aveugle dans nos conceptions. Il y a eu un passé et il y a eu un présent. Hein? C'est la rencontre avec Christ. Et ça, l'ennemi ne veut pas qu'on le voie. Mais le verset nous dit que tu es devenu une nouvelle créature. Le péché, c'est fini. C'est fini. Tu es un enfant de Dieu. Maintenant, les choses anciennes sont passées. Est-ce que tu le vis vraiment ? Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Alors, pourquoi tu vis encore avec ce qui est passé ? Jésus a effacé ta dette. Jésus a effacé tout ce qui était sale. Et aujourd'hui, il t'a donné une nouvelle identité. Et son identité, elle est en lui. Et tu es une merveilleuse créature. Dis à ton voisin que tu es une merveilleuse créature. Dis-le à ton voisin. Tu es une merveilleuse créature. Amen. Oui, il faut le croire. Tu es une merveilleuse créature. Alléluia. Vous savez, des fois, en entretien, je rencontre quelqu'un et puis il lui est arrivé forcément plein de mauvaises choses et ça a déterminé qui elle est ou qui il est. Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu peux répéter après moi, je suis une merveilleuse créature. Mais la personne ne peut pas. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Elle ne peut pas parce que ce n'est pas ce qu'elle ressent au fond de ses tripes. Elle ressent que, ben non, je ne peux pas être une merveilleuse créature. Regarde ce qu'on m'a fait, regarde ça. Comment je peux dire que je suis une merveilleuse créature? Mais non, tu n'as pas compris. C'est tout le monde qui a subi des choses. Tout le monde. Je suis en entretien toutes les semaines. Je peux te dire que j'entends des histoires incroyables toutes les semaines. C'est tout le monde qui a reçu des choses difficiles dans sa vie. Mais la grâce de Dieu, c'est le cadeau de Dieu qui te donne une nouvelle vie et qui te dit les choses anciennes, c'est passé. Nettoie tout ça, arrête avec ça, tu es libre de tout ça. Te fais pas piéger une deuxième fois. Arrête de vivre avec tout ça dans ton cœur parce que ça va pourrir ta vie. On ne peut pas vivre en paix. On ne peut pas vivre dans la liberté si on traîne avec soi tout le fardeau du passé. Faire la paix avec notre humanité. J'aime cette phrase à cette étape-là. Faire la paix avec notre humanité. Faire la paix avec ce que l'on est. S'accepter. C'est-à-dire que les imperfections de chacun, y compris les miennes, le combat que nous avons à mener pour éradiquer les conséquences du péché dans nos vies, nettoyer notre cœur, le protéger, voilà le défi de la restauration. C'est ça le défi de la restauration. On fait la paix avec ce que l'on est. On n'est pas parfait, ok, mais on est une créature de Dieu. Et ce qui nous est arrivé, c'est arrivé à toute l'humanité. On n'est pas différent des autres. Et faire la paix avec notre humanité, c'est s'accepter. C'est s'accepter, c'est se pardonner. Beaucoup de gens ont besoin de se pardonner. Et quelquefois, c'est difficile de se pardonner. Parce qu'on s'en veut. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi j'ai accepté? Pourquoi? Mais non, les pourquoi là, tu n'auras jamais les réponses au pourquoi. Jamais tu les auras. Parce que, encore une fois, je me répète, mais la puissance du péché, c'est ça le pourquoi. Mais aujourd'hui, tu as une revanche à prendre sur ce péché. En étant enfant de Dieu, tu as cette revanche à prendre là. D'accord ? Il ne faut pas se tromper de combat. On prend cette revanche là parce que maintenant, nous sommes des enfants de Dieu qui faisons le bien. D'accord ? On fait le bien maintenant. On combat le mal. On combat le mal. Et on pardonne petit à petit à ceux qui nous ont fait du mal. La clé, elle est là. Et le pardon, on le verra plus tard, c'est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui nous permet de pardonner. C'est sa grâce qui nous permet de pardonner. Mais il faut aller de l'avant. On ne va pas rester bloqué toute notre vie sur ce que l'ennemi nous a fait. Ce n'est pas possible. On va passer à côté de la vie. Revisitons notre histoire familiale, par exemple. Ce qui nous est commun, c'est que chaque enfant a besoin de recevoir de l'amour afin d'évoluer dans un contexte épanouissant et de devenir des adultes en bonne santé. On aurait aimé tous avoir une enfance où on a pris soin de nous, où on nous a protégés, où on nous a aimés. Mais pour beaucoup, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, voici une déclinaison de cet amour que nous étions en droit d'attendre de nos parents afin de grandir en bonne santé. Regardez, on avait besoin d'affection. Le besoin d'affection, c'est le besoin fondamental de recevoir l'amour et la tendresse nécessaires à une saine croissance. Tout le monde n'a pas reçu cette affection. Ça a créé des carences dans notre vie. Le besoin d'affection, c'est quoi? Ça entraîne quoi, le manque d'affection? pour la plupart de nous, on ne se sent pas aimé, on n'a pas une bonne estime de soi. C'est impossible. Comment vas-tu faire pour te sentir, avoir une bonne estime de toi, si tu ne reçois pas l'amour que tu dois recevoir? Regarde, tout type de relation à long terme, ça s'est rendu difficile à cause de ça. Tu as tendance aussi à la dépendance affective, parce que tu vas t'accrocher à celui qui te montre un petit peu d'amour. Waouh ! Quelqu'un qui me montre un peu d'amour, waouh, c'est incroyable. Waouh, celui-là, il ne faut pas que je le laisse partir, parce que j'en verrai peut-être pas d'autres. Hein. Tu vois ? Le besoin d'attention, le besoin intime, personnel, d'avoir la présence significative de quelqu'un qui s'intéresse à nous. Est-ce que tu as eu ça dans ta vie ? Est-ce que tu avais quelqu'un à côté de toi qui s'intéressait à toi, qui prenait soin de toi, qui prenait le temps d'être avec toi et de t'apporter de l'importance que tu comptes ? Est-ce que tu as eu ça ? Parce que pareil, le manque d'attention, eh ben c'est la mauvaise estime de soi, c'est vouloir exister à tout prix après, hein, vouloir... être dans toutes les conversations, vouloir prendre la parole, couper la parole, tout ramener à soi, parce qu'on a besoin d'exister. C'est être le centre d'intérêt. Le besoin d'admiration. Tout ça, c'est des déclinaisons de l'amour. On appelle les 4 A. C'est les déclinaisons de l'amour. C'est ce que chaque enfant aurait dû recevoir et que malheureusement, très peu ont pu avoir ça. L'admiration, c'est le besoin d'éveiller chez les autres un sentiment de fierté, un sentiment de satisfaction à l'égard de ce que nous sommes. Nous sommes, pas de ce que nous faisons, mais déjà avant toute chose, pour ce que l'on est. Déjà, avoir de l'admiration que quelqu'un te dise « Oh, je t'aime pour ce que tu es », pas en fonction de ce que tu fais, de bien ou de mal. Non, juste pour ce que tu es, un enfant. Mauvaise estime de soi, attirer l'attention des autres sur ce que l'on fait, se mettre continuellement en avant. Enfin, le besoin d'acceptation, le besoin profond d'être inclus et reconnu comme nous sommes, malgré ce que nous sommes. Ça aussi, ça entraîne la mauvaise estime de soi quand on ne l'a pas eue. On en fait trop, on est prêt à faire n'importe quoi pour être accepté. Rappelez-vous, comme... Pour se sentir aimé, pour avoir l'affection d'un autre, d'une autre, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour essayer de plaire à l'autre ? Malheureusement, à la lumière de ce que nous savons aujourd'hui, à la lumière des Écritures, le péché a aussi fait son œuvre dans la vie de nos parents. Évidemment. Et même de leurs parents à eux aussi. En fait, nous ne faisons que reproduire nos dysfonctionnements de génération en génération. Vous voyez ? Moi, quand je regarde les 4 A, ben, malheureusement, je crois que j'ai le pompon. Et en fait, quand je vois ma mère, franchement, ma mère, c'est une femme extraordinaire. Elle avait une résilience de fou. Elle a fait la résistance. Elle a tenu un restaurant, bar, café. Elle, c'est elle qui gérait les hommes du bâtiment qui faisaient les autoroutes à l'époque. Ça, c'était une femme de poigne. Oui. Malheureusement, je ne pense pas qu'elle avait hérité de l'amour maternel. Oui. Et quand je parlais avec elle, je disais, mais comment ça s'est passé chez toi, maman ? Mais en fait, elle était dans une famille de 18 enfants. 18 enfants. Vous imaginez, tous les soirs, si tu veux faire un câlin à quelqu'un, mais commence à 6 heures du soir, parce que si tu veux finir à 8 heures, il y a du boulot. Hein ? À l'âge de 10 ans, elle allait traire les vaches dans les champs, dans un mètre de neige. Et une photo. Je dis, ouais, mais... Vous voyez, c'était pas... Excusez-moi, mais il n'y avait pas de place pour la tendresse. Il n'y avait pas de place pour dire, mon chéri, comment ça va ? T'as passé une bonne journée ? Viens voir maman. Il n'y avait pas de place. Ouais. C'est compliqué, hein ? Mais vous voyez, de génération en génération, ben... On transmet tout ça. Oui. Moi, quand j'ai commencé à être papa, ben franchement, c'était pas terrible. Waouh. Heureusement, je suis tombé sur un livre Et je ne sais pas pourquoi, j'ai été poussé à lire ce livre. Je n'étais pas chrétien. Hein. Et franchement, ce livre m'a fait du bien. Et je crois qu'à mon fils aussi, ça lui a fait du bien. Parce qu'il a vu un autre papa. Mais franchement, on ne m'a jamais appris à être papa. Et avec l'éducation que j'ai eue, ben franchement, c'est pas facile hein, d'être papa quand tu n'as pas reçu d'éducation. Hein, c'est la rigidité, c'est faut marcher droit, les bisous tu oublies, la tendresse tu oublies, dire à ton fils que tu l'aimes, tu oublies, tu vois. C'est marche droit, fais les choses bien, comme il faut. Sois poli, tiens-toi bien, fais ci, fais ça. C'est ça. Et tu éduques ton enfant comme ça, en fait, tu reproduis la même chose, tout simplement. Donc, ceux qui étaient censés prendre soin de nous, nous apporter la sécurité, l'amour, la tendresse, la confiance en soi, l'ont fait ou pas avec leurs limites et leurs dysfonctionnements. Ce que j'ai compris en devenant chrétien, c'est que j'ai compris ça. Ma mère, elle m'aimait. C'est une évidence. Mais elle ne m'aimait pas comme moi, j'aurais voulu être aimé. Voyez la différence ? Et aujourd'hui, quand je rencontre des jeunes qui ne sont pas contents avec leurs parents, je leur dis la même chose. Je leur dis, tu sais, papa et maman, ils t'aiment. Mais peut-être qu'ils ne t'aiment pas comme toi, tu voudrais être aimé. Et nous, en tant que chrétiens, c'est important de réaliser tout ça. Parce que justement, on met à jour, c'est ce qu'on fait là, dans l'exercice. On met à jour nos dysfonctionnements. On met à jour, et c'est pour nous, c'est pas pour les autres. Parce que quand vous allez remplir ça là, ben, vous pouvez dire, oh là, ça me fait penser à un tel. Oh là, il en aurait besoin, il devrait venir au vase restauré. Et, oh celui-là, oh là là, alors là, ça, on n'en parle pas. Non, non, là, on parle de toi. Parle de toi là, parle pas des autres. Tu vois? Et c'est pas le moment de reproduire ce qu'on a subi de génération en génération. C'est le temps de mettre à jour les choses, parce que moi, je veux pas ressembler à ça. Je veux pas ressembler à ça. Combien de personnes ont détesté ce qui leur est arrivé quand ils étaient petits et ont reproduit la même chose quand ils étaient adultes? Des choses qu'ils voulaient pas faire. Qui a dit, moi, jamais. Et puis, finalement, ils se retrouvaient à le faire. Je vois une petite anecdote. Dans notre famille, on a une mauvaise hérédité. Enfin, on avait, merci Seigneur, rectifier tout ça. On avait une mauvaise hérédité, c'était l'alcool. Oui, parce que chez nous, je suis bien de Normandie, on fait le calva. D'accord ? Et à cette époque-là, le calva, ça se faisait de ferme en ferme avec une roulotte, un peu comme dans les films américains, là, hein, pendant les westerns. Il y avait une roulotte. Et puis, il faisait ce qu'on appelle la cuite. Donc, il mettait les pommes, il faisait la cuite, et puis il sortait de l'alcool, comme un alambic, en fait, si vous voulez. Ouais. Et puis donc, c'était ma famille qui faisait ça. Et tous les soirs, figurez-vous, ça va peut-être vous surprendre, il rentrait bourré. Eh oui, toutes les vapeurs d'alcool toute la journée, puis peut-être qu'il fallait goûter l'agnole pour voir si elle était bonne. Ils étaient bourrés. Et donc, de génération en génération, eh bien, on a eu ce problème d'alcool. Et mon père, qui était alcoolique et qui était violent, il me faisait peur. Quand il rentrait bourré, aïe, j'allais sous la table. Je me cachais sous la table. Parce qu'il n'était pas facile, le gars. Et donc, vous voyez, l'alcool, j'en avais la trouille, quoi. Ouais, la trouille. Mais quand j'ai commencé à être ado, vers les 15 ans, ben, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais c'était facile pour moi de boire. Ouais, puis pour épater les copains, tu vois. Mais tu tiens la bouteille. Et là, ça en fait une force, tu vois. Tu dis, oh, tu es sous, ça te fait quelque chose? Moi, ça me fait rien, moi. Tu vois. Pouf, pas du tout. Oui, c'est un truc de couillon, quoi. Mais j'étais dedans. J'étais dedans à fond les gabelles. Et quand je suis devenu chrétien, ben, évidemment, tout ça, ça s'est mis à jour. Et un jour, dans un repas, je me rappelle, j'ai regardé mon fils. Et en regardant mon fils, je me voyais. Je me voyais. Vous savez ce qu'il faisait? Il causait, et puis sans s'en rendre compte, il buvait. Incroyable. Puis à la fin de la soirée, il était bourré. Et donc, je l'ai pris à part et je lui ai dit, tu sais, il faut que tu fasses gaffe. Parce que tu as le même problème que moi, tu as le même problème que papy, et sans doute que tu as le même problème que nos ancêtres. Donc c'est une illustration, mais pour vous dire que nos patterns, nos dysfonctionnements, eh ben on les transmet. Mais quand on devient chrétien, c'est là qu'il faut dire, Seigneur, c'est fini ça. Ça, c'est terminé. C'est terminé, d'accord ? Qu'est-ce qui fait qu'il va nous aider à arrêter tout ça ? Vous voyez, c'est la grâce de Dieu. C'est de rentrer dans la grâce de Dieu, de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Dieu, comment il nous voit, comment il nous considère. Vous voyez, son amour, eh ben, elle nous comble. Avant, on ne connaissait pas l'amour de Dieu. Quand on était mal, il nous fallait quelque chose pour compenser la souffrance qu'il y avait spirituellement au fond de nous. Hein? Et donc, on est rentré dans différentes addictions. Mais aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu qui vient nous combler au fond de notre cœur. Amen. On n'a plus besoin d'addiction. D'accord ? Même si l'ennemi veut te le faire croire. Mais en réalité, aujourd'hui, l'amour de Dieu te comble de toutes choses. À la lumière de ce que nous savons aujourd'hui, le péché a aussi fait son œuvre dans la vie de nos parents, on l'a vu. Donc ceux qui étaient censés prendre soin de nous, nous apporter la sécurité, l'amour, la tendresse, la confiance en soi, l'ont fait avec leurs limites et leurs dysfonctionnements. En réalité, très peu ont pu bénéficier d'un environnement en santé avec leurs parents. Beaucoup sont des éclopés de la vie, ayant en eux des manques et des carences affectives, comme les parents. Très rapidement, la vie se révèle difficile. Très rapidement, la vie se révèle injuste, douloureuse. Nous nous sentons seuls, incompris, cherchant du réconfort auprès des êtres humains, ceux qui créent beaucoup d'attentes inconscientes et souvent irraisonnables. Mais nous étions ignorants. Nous pensions qu'on était la seule personne à avoir vécu ça et que les autres n'étaient pas comme nous, que leurs besoins, eux, ils avaient été comblés et qu'auprès d'eux, j'allais pouvoir combler mes besoins. Nous avions encore l'espoir au fond de nos cœurs que l'amitié allait pouvoir remplir ce rôle-là. La fratrie peut-être aussi. Puis on a fini par croire que la réponse à tout cela serait dans le mariage. Ah, la réponse est dans le mariage. On s'est mis à rêver au prince charmant avec son beau cheval blanc. Beau cheval blanc. Mais là encore, nous avons réalisé bien amèrement que le cheval était resté à l'écurie. Toutes ces attentes déçues envers nos proches ont façonné notre vie. Ils ont laissé en nous des blessures béantes, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Et aujourd'hui, toutes ces blessures, ils ont besoin d'être guéris. Par un renouvellement de notre compréhension des choses à travers la réalité de la parole de Dieu. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant doit nous amener à revoir tout ça, la compréhension de tout ça, à la lumière de l'Évangile. Afin de ne pas rester prisonniers de gens qui nous ont fait du mal, mais qui eux-mêmes ont reçu le mal. Sinon, c'est un cercle vicieux. On ne s'en sort pas. Comme j'avais dit au tout début, rappelez-vous, je te blesse, tu me blesses, on se blesse, nous nous blessons. Et on va pouvoir conjuguer ça tous les jours de notre vie. Mais on va finir en lambeaux. On va finir mal. Comprenez ? C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'arrêter tout ça, justement. Toutes ces personnes sont, eux aussi, en mauvaise posture. Eux aussi ont les mêmes besoins que moi. Ils sont, comme moi, des êtres imparfaits, carencés et blessés. Et ils ne pouvaient pas me donner ce qu'ils n'ont pas. Vous comprenez ? On va vers les êtres humains pour qu'ils nous donnent quelque chose qu'ils n'ont pas. Je suis carencé, je viens voir quelqu'un qui est carencé. Ah ben on va arranger les choses. C'est ça la réalité. Hein ? On s'imagine des choses. On va dans le mariage et on dit, lui, il va m'aimer. Lui, il va me donner l'amour que je n'ai pas eu. Oh, ça va être chouette. Et ça, c'est des... Profites-en bien, parce que ça ne va durer qu'un petit temps. Tu vois ? C'est ce qu'on appelle Eros. Tu vois ? Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que, punaise, mais il ne m'avait pas dit tout ça, mais il a des sacrés problèmes aussi, lui. La vache. Bienvenue dans le club du mariage. Bienvenue avec vos valises. Eh oui, c'est pas réglé tout ça. Ce qui se passe, la réalité, c'est que tant qu'on n'a pas connu Jésus, on n'est pas branché à la bonne source. On est branché à une source, mais le filet est tout petit, 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 petit. Alors que la source de Dieu, elle coule à grandes eaux. Et tant que tu n'es pas branché à la source de Dieu, tant que tu t'appuieras sur un être humain, excuse-moi, tu vas peut-être me trouver un peu pessimiste, mais je suis réaliste, tu seras déçu. Un être humain, il n'a pas ce pouvoir-là. Donc même dans le mariage, si tu te dis « Waouh, c'est l'homme de ma vie, oh, c'est la femme de ma vie », ok, ben profite. Profite bien. Parce que tu vas te réveiller bientôt et puis tu vas découvrir la réalité. Hein, vous connaissez l'adage que j'utilise souvent. Hein, l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Et c'est tout le monde. C'est pas quand je rencontre quelqu'un qui me dit « Tiens, je me suis trompé de femme » ou « Je me suis trompé de mari ». Non, t'as pas compris. Il n'y en a pas un qui peut être à la hauteur de ce que tu attends. Il n'y en a pas un. Le seul qui peut être à la hauteur de tes attentes, c'est Jésus-Christ.
Amen.
Il n'y en a pas d'autre. Donc, si tu te dis ah, « Ça serait bien de changer et puis d'en prendre un autre », maintenant, tu vas juste multiplier les problèmes. C'est tout ce que tu vas faire. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc en réalité, on a besoin d'être restauré. On a besoin d'être branché à la bonne source. Amen. On a besoin de sortir de son piédestal le gars que tu as marié ou la femme que tu as mariée. Descends-la de son piédestal, puis ça va lui faire du bien parce que tu lui as foutu une telle pression. Non, vaut mieux la descendre là, tu vois. Et puis apporte ce que tu as de mieux à cette personne-là. Et l'autre aussi apporte ce que tu as de mieux à cette personne-là. Et là, le mariage sera à sa place. Et je vous assure, peut-être que vous me trouvez pessimiste, mais moi, ça fait 18 ans, un peu plus maintenant, que je suis avec ma chérie là-bas. Et en réalité, c'est un mariage extraordinaire. Et j'ai 18 ans de mariage inconverti. Donc, vous voyez, je peux comparer les deux. Un mariage sans Christ dans ma vie, et c'est le mariage de tous les jours, c'est le mariage que tout le monde vit, parce que personne n'est enseigné au mariage. Moi, je fais l'enseignement du mariage, mais s'il y a 10 couples, c'est le maximum. Alors que tout le monde a besoin d'être enseigné sur le mariage. Les gens rentrent dans le mariage, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un mariage. Tu comprends? C'est fou, c'est comme si je disais à quelqu'un, bah, « Tiens, tu n'as jamais conduit de voiture? Bah, tiens, prends celle-là, puis vas-y, roule. » Ça serait un danger public. Mais c'est ce qui se passe dans le mariage. Mais on ne voit pas parce que c'est Eros, tu vois, c'est Eros. Donc nous, on est différents. Pour nous, c'est différent. Nous, on s'aime. Les autres, ils ne s'aiment pas. Nous, ça va être dit. Bienvenue au club, tu vas voir dans quelques temps. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que le mariage, l'être humain, il est là. Dieu, il est là. Jésus-Christ, il est là. Tu ne peux pas mettre au même niveau. Ça ne marchera jamais. Tu as besoin d'une relation avec Jésus-Christ. Parce que quand ça va mal se passer dans ton mariage, eh ben, il te faudra être branché à cette source. Une source de consolation, une source d'amour parfait. Le seul qui peut te comprendre, c'est Jésus-Christ.
Amen.
Pourquoi? Parce que dans tout ce qui t'est arrivé, il était là avec toi. Il connaît par où t'es passé, il connaît tes souffrances, il a pleuré avec toi. Il n'était pas indifférent à tes souffrances, il était là. D'accord? Et c'est pas une baguette magique, le Seigneur. Tu vois, à ce moment-là, il y aurait plus de problèmes sur la terre. Hein. Ils seraient tous résolus. Hein. Coup de baguette magique, poum, 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 tout est résolu. C'est plus complexe que ça. Mais en réalité, aujourd'hui, si tu veux une vie saine, 18 ans de mariage, un peu plus maintenant, avec ma chérie, mais c'est un mariage que, scellé par le Seigneur et qui est vécu comme Dieu a conçu le mariage. Le mariage, il n'a pas été conçu par les hommes, il a été conçu par Dieu. Mais si tu ne marches pas comme le mariage, comme Dieu l'a conçu, ben c'est comme si tu voulais monter un meuble Ikea et puis que tu n'as pas le mode d'emploi. Ben, ça va être compliqué, hein, je peux te dire. Tu vas arriver à la fin, tu vas dire, pourquoi il me reste autant de vis? Branché à la bonne source. Nos blessures, additionnées à nos carences affectives, voyez, vont conditionner en grande partie nos comportements dans la vie. Des comportements de protection exagérés, mais parfois d'agressivité ou d'isolement, susceptibilité ou jalousie maladive, contrôle en excès, la liste, elle ne finit plus tellement il y a de dysfonctionnement chez l'être humain. Vous voyez ? Et tout ça, si c'est pas nettoyé là, si c'est pas mis à jour, eh ben ça va rester. Tu les auras, tes comportements, même si tu changes de partenaire, mais tu emmèneras avec toi tes dysfonctionnements. Il faut les régler. Et c'est le moment de les régler. Tout cela, évidemment, vient compliquer nos relations humaines. Incompréhension, conflit, dispute, critique, dévalorisation, médisance, pour certains, rupture, et on peut aller jusqu'à la haine, on peut aller jusqu'au meurtre. C'est ce qui se passe. Au fil du temps, les conséquences de nos blessures et de nos carences, malheureusement, vont forger notre identité, notre façon d'être, notre comportement avec son cortège d'étiquettes. Et au final, nous rendre malheureux. Tant qu'un être humain n'est pas né de nouveau en venant à Christ, tant qu'il est sous le poids du péché, il reste un handicapé spirituel. Son cœur est malade, il reste prisonnier des conséquences du péché sur sa vie. Seul Christ a le pouvoir de briser la puissance du péché dans notre vie et de changer notre cœur. Regardez, les blessures qui conditionnent, c'est des exemples, les blessures qui conditionnent nos comportements. Vous voyez comment, si on n'en prend pas conscience là, eh ben, on ne guérit pas et nos relations sont perturbées, nos relations sont toxiques. Voici quelques exemples de comportements qui peuvent vous aider à identifier vos blessures. Tu as été trahi dans la vie ? Tu auras un comportement contrôlant. Tu as été rejeté dans la vie, tu auras un comportement fuyant. Tu as été abandonné dans la vie, tu auras un comportement de dépendant. Tu as été humilié dans la vie, tu auras un comportement masochiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que tu vas saboter ce que tu fais dans la vie. Injustice, comportement rigide. Tu sais, c'est les légalistes dans la parole de Dieu. Clash, clash, clash. Sinon, tu vas en enfer. Revisiter l'impact dans nos vies de nos émotions. Et principalement ce que j'appelle les trois vilaines sœurs. Avant le péché, ces émotions toxiques n'existaient pas. Mais quand vous voyez ce qui est arrivé après que Ève a subi les tentations du serpent. Tout de suite après, si vous regardez, il y a trois émotions qui n'avaient jamais été citées dans la Bible et qui apparaissent. Et ces trois émotions toxiques, là, je parle de toxiques parce qu'on pourrait dire que des fois, ça peut être positif. Mais là, c'est l'ennemi qui va s'en servir pour te détruire de l'intérieur. La culpabilité, la honte et la peur. Alors, on va regarder ça. Regardez, la peur, d'abord, c'est un sentiment intérieur d'appréhension, d'anxiété, d'inquiétude. Vous voyez aujourd'hui comment les gens vivent sous l'inquiétude, vivent dans l'anxiété. On est les plus grands consommateurs d'anxiolytiques. Tout ça, c'est une peur toxique qui vient, l'effroi, accompagné de réactions et de symptômes physiques. Parce qu'en réalité, ça commence par une émotion et ça se traduit physiquement. Identifier nos peurs. La plupart du temps, nous devons nous convaincre nous-mêmes de l'irrationalité de nos peurs. Vous voyez ? Et on a peur. On a peur que ça se passe mal. On a peur d'être abandonné. Par exemple, prends quelqu'un qui a été abandonné ou qui a subi de l'abandon, qui a eu dans sa vie, il a vécu des moments où on l'a négligé, on l'a mis de côté. Il s'est senti rejeté ou abandonné. Eh bien, il aura tendance à avoir un tempérament contrôlant. Pourquoi ? Parce qu'il a peur. Il a peur que la personne qui est avec lui, elle va se barrer. Elle se dit, tout d'un coup, elle va ouvrir les yeux, elle va regarder qui je suis, et puis elle va partir en courant. Donc, il faut que je contrôle. C'est une peur irrationnelle. Il y a plein de peurs comme ça qui viennent de nos émotions qui ne sont pas saines, des émotions qu'on voit le danger où il n'y en a pas. Cette irrationalité de nos peurs doit être confrontée à notre foi. Dieu emploie dans la Bible 365 fois l'expression « ne crains pas ». Dieu connaît que ça fait partie des conséquences du péché. Avoir peur. Peur de l'avenir. Peur de ce qui va se passer. Faire des scénarios dans sa tête dramatiques. Et si, tu vois, et si. Waouh. On ne peut pas vivre dans la paix. On n'est pas dans la liberté et la paix. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et Philippiens 4:6 nous le dit, ne vous inquiétez de rien, parce que Dieu est avec nous. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, et on remercie le Seigneur. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voyez le lien qu'il y a entre la paix de Dieu qui nous envahit et ne pas s'inquiéter de tout et de rien. Pour ce qui concerne la culpabilité, peu d'émotions sont aussi pénibles et dévastatrices à éprouver. Ça, c'est une des armes de l'ennemi. Il rend coupable les frères. Ça, c'est son plaisir. Vous voyez ? Le sentiment de culpabilité agit comme un bourreau, torturant lentement sa victime, jusqu'à ce que celle-ci sombre, paralysée dans le désespoir. Vous voyez comment l'ennemi arrive avec nos émotions toxiques, avec les pensées qu'il nous met là. Il arrive à nous amener dans un état dépressif. Il nous rend coupable de ta vie, c'est ta faute tout ça. Tu es bon à rien, t'as pas de valeur, tu regardes ta vie. Voilà, ça c'est lui ça. Tout le contraire de Dieu. Dieu nous voit et il nous aime comme nous sommes. Et l'autre, il arrête pas de te tabasser dessus en te disant tu es coupable. Alors qu'il n'y a plus aucune condamnation en celui qui est en Jésus-Christ. Amen. On n'est plus coupable de tout ça, c'est fini. Tu vois, c'est encore un piège de l'ennemi. Mais combien sont encore prisonniers de cette culpabilité toxique? Les sources de la culpabilité, évidemment, c'est le péché. D'accord? Coupable de désobéissance. C'est aussi une éducation rigide. Parents toujours insatisfaits qui nous entraînent dans une recherche d'une perfection illusoire. La perfection, c'est quelque chose de... illusoire, c'est une illusion. Ça n'existe pas, la perfection. Mais vous avez des parents, ils ont reçu l'éducation, sans doute de leurs parents qui avaient aussi... Bon, bref, on est de génération en génération. Et pour eux, au lieu de savoir donner de l'amour, tout ce qu'ils savent faire, c'est la rigidité. Ça doit être comme ça. Tu ramènes un 15 de l'école. Maman, regarde, j'ai un 15. Ah, t'aurais pu faire mieux. Franchement, t'aurais pu faire mieux. Ça va jamais. On n'est jamais à la hauteur. On n'est jamais comme il faut. Mais c'est fatigant. Et puis, quelle image que ça nous donne de nous-mêmes. Mauvaise conception de Dieu. Pareil, vous avez des chrétiens qui ont une mauvaise conception de Dieu parce que, ils ont eu un père dans la vie qui ne leur a pas fait de cadeau. Un père rigide, un père difficile. Et quelque part, quand on met le mot père, le père, les émotions qui naissent, c'est s'approcher de Dieu et avoir une relation intime avec Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tout d'un coup, et pour eux, le Père et Dieu, c'est la même chose. Alors que c'est une illusion, encore une fois, c'est un mensonge de l'ennemi. Pas du tout. Dieu est Dieu, et notre papa terrestre, il était imparfait. On ne peut pas comparer. Pareil pour les sources de la culpabilité, je l'ai dit tout à l'heure, le diable, il est l'accusateur des frères et des sœurs. Il se plaît à ressortir les anciens dossiers. Oui. Tu vois? Si tu n'as pas fait la paix avec toi-même, si tu n'as pas fait la paix avec ton humanité, si tu te rends compte que ce n'est pas de ta faute, c'est le péché, tu as été victime du péché comme tous les humains. Tu vois? Donc, lui, il va sans arrêt te dire, non, toi, c'est différent. Oh, toi, c'est de ta faute. Hein. Il va finir par te faire croire que toi, tu es différente des autres. Que les autres, ils sont à peu près bien. Alors toi, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Il agit comme ça. Et enfin, le jugement et le légalisme. Le jugement et le légalisme t'amènent à te sentir coupable jamais comme il faut. Dans Romains 8:1, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, elle m'a affranchi de la mort, du péché, de la loi du péché et de la mort. » Et enfin, la dernière émotion, c'est la honte. La honte, on n'en parle pas beaucoup. Mais la honte, Je crois que c'est la pire de tous. La honte, elle est cachée. C'est sa particularité, c'est qu'elle est cachée et donc on ne la voit pas. C'est une émotion qui entrave profondément notre transformation. La honte, une émotion qui est ancrée en nous et qui signifie à la personne qu'elle n'est fondamentalement pas une bonne personne, indigne, et qu'elle ne sera sans doute jamais à la hauteur. Vous voyez, relisez bien ça. Regardez la puissance de l'émotion de la honte. La honte, c'est une émotion profondément ancrée en nous. Elle est profondément au fond de nous. Et elle rappelle sans arrêt à la personne que tu n'es pas une bonne personne, que tu es indigne et que tu seras sans doute jamais à la hauteur. Vous vous rendez compte? Regardez, qu'est-ce que ça provoque chez quelqu'un? Le sentiment que ressent une chenille lorsqu'elle se rend compte que toutes ses amies se sont changées en papillons et qu'elle est restée chenille. C'est le vilain petit canard. Tu vois? Avec ce sentiment que les autres, pour les autres, ça va bien. Pour les autres, c'est toujours bien. Mais pour toi, oh là, mon pauvre gars, ma pauvre fille, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? C'est le syndrome du vilain petit canard. Vous avez aussi, la honte amène le syndrome de l'imposteur. Oui, parce que le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? Je me positionne en imaginant négativement ce que les gens pensent de moi. Un jugement incompétent, pas à ma place, usurpateur. Et cela devient ma réalité. Baisse d'estime de soi, dévalorisation, le stress de ne pas être à la hauteur. Alors, pour ne pas être démasqué, qu'est-ce que je fais? Ben, je travaille avec acharnement. Je travaille plus que les autres pour y arriver. Et on va me complimenter. On va dire, waouh, c'est super ce que tu fais et tout ça. Mais comme j'ai une mauvaise image de moi, vous voyez, plus je suis complimenté, plus j'ai le sentiment de ne pas mériter les honneurs et que bientôt je vais être démasqué et donc j'ai la trouille. Je me positionne toujours en imaginant négativement ce que les gens pensent de moi. C'est-à-dire que la honte, elle te fait dire que toi, tu n'es pas à la hauteur. Tu ne seras jamais à la hauteur. Alors que c'est faux. Tu as tes compétences. Tu vois? Mais voilà, c'est pas rationnel. C'est ça que je veux dire. C'est pas rationnel. C'est l'ennemi qui te fait croire à travers ses émotions toxiques que tu ne seras jamais à la hauteur. La honte a une particularité. Elle se cache au fond de nous, au fin fond de notre âme, camouflée, invisible. Elle est difficile à discerner. C'est pourquoi beaucoup de gens restent remplis de honte toute leur vie, souvent sans le savoir. La honte, elle est collée à nous. Elle fait partie de nous. Elle participe grandement à la construction de notre identité. Elle est liée à l'image et à l'estime de soi, à la perception de ce que nous sommes. Particularité, elle procède de la comparaison. Nous jaugeons qui nous sommes à la lumière de la perception que nous avons des autres. Et les autres sont toujours mieux que nous. Les autres, ils n'ont pas vécu tout ce qu'on a vécu, ils sont mieux que nous. Donc, on se dévalorise nous-mêmes, on se diminue nous-mêmes. Nous parlons de honte toxique parce que son effet est justement d'intoxiquer l'esprit. Tout comme une substance intoxique l'organisme. La honte toxique est à la base de beaucoup de dépendances, affectives, chimiques, sexuelles. La codépendance, le jeu, les troubles de la personnalité. Oui, ça va loin. Cette honte qui est cachée au fond de nous, hein, eh ben, elle n'a pas disparu. Elle ne disparaîtra pas tant qu'on ne l'aura pas mis à la lumière. Eh ben, elle provoque tout, ça, tout ce genre de choses. Elle est à l'origine de plusieurs abus, violences conjugales, abus physiques et sexuels. Enfin, elle est au cœur de la dépression et nourrit le désespoir de ceux qui en souffrent. La honte est reliée au manque d'estime de soi. Costaud. C'est costaud. Hein. C'est pour ça que j'aime à dire que on doit faire ce travail d'estime de soi, de relèvement d'estime de soi, de connaître son identité en Christ, parce que quand on connaît son identité en Christ, la honte n'a plus sa place. Parce que Christ nous a aimés le premier. Christ a été à la croix pour nous. Notre identité, elle est en Christ. Notre valeur, elle est en Christ. Amen. Notre valeur, elle n'est pas dans notre histoire. Notre valeur, elle n'est pas qu'aujourd'hui, tu as réussi à t'en sortir et puis tu as un beau métier ou tu as un beau truc. Ça ne marchera pas. Ça ne fera pas disparaître la honte. La honte, elle est dans l'assurance que Jésus t'aime. Amen. Elle est dans l'assurance que Jésus, il a tout fait pour toi. Ta valeur, elle est dans le sacrifice de Jésus. Ta valeur, elle est dans l'amour de Dieu. Et ça, ça ne changera pas. C'est un fondement. Ce que tu fais tous les jours, dans ta vie de tous les jours, ça peut venir, aller. On ne sait pas de quoi demain est fait. Mais il y a une chose qui est certaine. Si tu bases ta valeur, ton estime de soi sur Jésus-Christ, ça ne changera jamais. Et tu ne peux pas cultiver la honte avec l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, ça ne marche pas non plus. Si tu es accepté par Dieu, si tu es aimé, si tu réalises le sacrifice qu'il a fait pour toi, alors c'est parce que tu as de la valeur. Amen. Et que la honte n'a pas sa place dans ta vie. La honte toxique amène la personne à se considérer comme une erreur, comme moins que rien, comme la pire des pires. Pas de place pour l'erreur, pas de place pour l'échec. Parce que, regardez bien, si je subis un échec, alors ça signifie que je suis un échec. Si je fais une erreur, ben ça signifie que je suis une erreur. Vous voyez un peu l'espèce de bourreau qu'il y a au fond de nous, qui nous torture sans arrêt. Est-ce que vous croyez qu'avec ça, on peut être en paix? Est-ce que vous croyez qu'avec ça, on peut vivre la liberté? Mais certainement pas. Il faut se libérer de cette honte-là. Elle est toxique, elle nous pourrit la vie. La honte toxique, elle contribue à notre identité. La honte toxique pollue l'identité propre de la personne. Je suis ce que je fais. Le jugement est impitoyable. Si je fais mal, je suis l'incarnation du mal. La honte est essentiellement une colère tournée vers soi. Il faut le savoir. La honte, c'est une colère qui est tournée contre nous. En fait, on s'en veut. On s'en veut. On a honte de ce que l'on est. On ne s'aime pas. On a honte de ce que l'on est. On ne s'accepte pas. On ne s'aime pas. Et on se rabaisse. On n'a pas besoin de gens qui vont le faire pour nous. On le fait pour nous-mêmes. C'est complètement à l'inverse du message de l'Évangile. C'est carrément à l'inverse de ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Il est venu te chercher dans ton caca, il t'a relevé, et aujourd'hui, eh ben, si tu es encore dans cet état-là, eh ben, c'est comme si son sacrifice à la croix avait servi à rien. Il a tout fait pour toi. Il ne peut pas faire plus. Il ne peut pas t'aimer plus. C'est à toi de rentrer dans cet amour. C'est à toi de rentrer dans le tout accompli. Il ne peut pas faire plus. Il a fait le maximum. Il a tout fait pour toi. C'est à toi de lâcher prise et de dire c'est des mensonges tout ça. Et par la foi, je décide que oui, je suis une personne merveilleuse, comme Christ le dit. Oui, et merveilleuse ne veut pas dire parfaite. Mais j'ai de la valeur. Mais je ne suis pas le pire des pires. Mais je suis accepté par le Seigneur. Je suis son enfant. Il t'a adopté. Lui, c'est le roi. Et maintenant, tu es la reine. Tu es la princesse. Amen. Et nous, on est les princes. Amen. C'est important de rentrer dans ces conceptions-là. Parce que ça va faire taire l'ennemi. Ça va faire taire tes conceptions qui viennent de ton passé, de ce que tu as vécu. La honte toxique, la honte et la colère, enfouies au fond de notre âme, nous empêchent de nous pardonner. On s'en veut d'avoir subi ce qu'on a subi. On s'en veut des blessures qu'on nous a infligées jusqu'à se sentir, écoutez ça, jusqu'à se sentir partiellement responsable de ce qui nous est arrivé. Alors que tu es une victime à 100%. L'ennemi te fait croire des mensonges. Alors, cette honte toxique, elle est transmise de génération en génération, malheureusement. C'est quelque chose qu'on hérite, et de génération en génération, et de style de vie à la maison, où on n'est jamais à la hauteur, où on ne fait jamais les choses comme il faut. En fait, on est dévalué par les paroles, parce que vous savez que les paroles tuent. Et ça commence à s'empiler par couches successives. Dès l'âge, regardez bien ça, c'est les études qui ont été faites. La honte, on commence à l'empiler à partir de 15 mois. Ouais. 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 Ça, c'est à partir de 15 mois. Dans, tu commences à ressentir à travers ce qu'on te dit dans le foyer familial, ben que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, toi, t'es pas bon, toi, t'es pas bon, ça, c'est pas bon. Tu vois. Et en fait, tu finis par te construire dans cette identité. Tu vois. Et donc, c'est comme des strates d'une roche qui nous permettraient de lire ton histoire. Les paroles dévalorisantes émises par l'entourage de l'enfant, parents, fratrie, personnes en autorité, vont l'amener à se ressentir différent des autres et surtout moins bien que les autres. D'où, alors, quelques exemples de paroles dévastatrices, vous voyez, pour qu'on soit concret ce soir. Mais tu es vraiment un bon à rien. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir quelqu'un comme toi? Mais c'est pas possible, tu as le diable dans la peau. C'est pas un cerveau que tu as, c'est une passoire. Mais c'est quand même pas compliqué à comprendre là, ce que je t'explique. Mais franchement, là, mais je sais plus quoi faire avec toi. Allez, j'en ai marre de toi, dégage de là. Ah, tu as eu 14 à ton contrôle. Mais si tu avais travaillé plus, au moins tu aurais pu avoir 18, espèce de feignant. Se faire traiter de bâtarde. Puis arrivent les blessures de la vie qui vont venir alimenter couche par couche avec la famille élargie, avec l'école, le harcèlement, la bande de copains, ces différentes blessures, le rejet qu'on a vu tout à l'heure, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison, vont permettre à la honte de se nourrir de nos souffrances et constituer de nouvelles couches. Exemple de blessures qui générant la honte. Manque d'affection, manque d'attention envers l'enfant. Ne pas être traité de la même manière dans la fratrie. Servir de bouc émissaire, être harcelé, être humilié en public, être victime d'attouchements, d'inceste, de viol, être victime de maltraitance et d'abus divers. Destruction, les conséquences de ces comportements suite à ces blessures. Destruction de la confiance en soi, entraînant une mauvaise estime de soi, vouloir en finir avec la vie, problème d'acceptation de soi, problème relationnel avec notre entourage, problème de susceptibilité, problème d'état dépressif, tendance à se faire abuser, problème d'addiction, comportement perfectionniste, problème narcissique, problème d'automutilation, scarification, problème dans la sphère de l'intimité. La honte t'amène dans le légalisme. Tu deviens quelqu'un de très rigide et de très dur avec toi-même. Vous voyez un petit peu toutes ces conséquences de la honte? C'est terrible. Alors, guérir de la honte. Comment on s'en sort? La guérison va provenir davantage d'un processus que d'un acte instantané. C'est une reconstruction et une restauration de l'identité. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est surtout revoir ta vie comme on le voit ce soir, à travers les Écritures, que tout ça, tu n'es pas responsable de tout ça. Mais il y a un ennemi de ton âme qui veut te faire croire le contraire. Tu vois? Et que petit à petit, tu te reconstruis en comprenant ton identité en Christ. Qui tu es en Christ? C'est important de comprendre qui nous sommes en Christ. Parce que sinon, tu ne seras jamais sur un socle solide. Tu douteras toujours de toi. Mais si c'est Christ qui te dit qui tu es, alors là, ça change. Le travail va te permettre de passer d'un statut d'orphelin à un statut d'enfant adopté par le Père. En changeant tes conceptions et en acceptant cette nouvelle identité en Christ, ton acceptation de manière inconditionnelle. Christ t'a aimé de manière inconditionnelle, pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais, pas pour ce que tu essayes de prouver aux autres. Christ, il n'en a rien à faire de ça, il ne sera jamais épaté. Christ, il t'aime au maximum de ce qu'il peut aimer, tel que tu es. Et c'est ça que tu as besoin d'entendre. Tu as besoin d'entendre que ce que tu es, c'est extraordinaire. Dieu t'aime comme tu es. Ta valeur donnée par Christ l'amour de Dieu pour toi. C'est ça ta base, c'est ça ton identité en Christ, c'est ça ton socle. Il ne dépend pas d'un autre être humain. Trop fragile, trop dangereux. En refusant les mensonges du diable. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je me sens comme le pire être sur la terre. Je me sens comme moins que rien. Je me sens différent des autres. J'ai le goût de disparaître. Je me sens rabaissé. Je ne me sens pas digne d'être aimé. Je me compare et je me dévalue. Je me sens rejeté sans raison apparente. L'ennemi essaye de te maintenir dans la honte. Lorsque nous prenons conscience de notre honte, il faut maintenant la ramener à ce qu'elle est. Juste une émotion. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vérité. Tu dois l'entendre ce soir par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ce soir parle à ton cœur. Et il dit, ce n'est pas la vérité. C'est qu'un mensonge de l'ennemi. Tu es victime d'un narratif venant du monde des ténèbres. Des mensonges de l'ennemi qui veut te détruire ta famille. Il est impératif que tu amènes la lumière et la vérité sur ta vie. Ce ne sont pas des faits, mais c'est quelque chose que tu ressens. Et ressentir ne veut pas dire consentir. C'est pas parce que je ressens quelque chose que c'est forcément la vérité. J'aime à dire ceci, c'est que les émotions, oui, c'est une bonne chose. Les émotions, ce sont des bons serviteurs. Mais ce sont des mauvais maîtres. Les émotions ne doivent pas diriger ta vie. Parce que les émotions sont trompeuses. Il est nécessaire d'amener à la lumière ce que tu ressens, ce que tu crois, pour le confronter à la parole de Dieu et à la vérité. Et tu vas voir que entre ce que l'ennemi essaye de te faire avaler comme mensonge et ce que la parole de Dieu dit, eh ben tu vas voir que c'est la lumière et les ténèbres. Il est nécessaire de mettre ces mensonges à la lumière en les partageant avec quelqu'un de confiance. On revient à ce que je vous avais dit, de commencer à vous préparer à avoir quelqu'un de redevabilité. C'est important de discuter avec quelqu'un que Dieu place sur votre chemin afin que vous puissiez confronter avec cette personne-là la vérité et de mettre à nu les mensonges de l'ennemi. Il ne faut pas rester seul. Tout seul, on ne s'en sortira pas parce que tout seul, on va avoir du déni. Tout seul, l'ennemi va réussir à nous mettre du mensonge. On est trop fragile tout seul, surtout dans ces moments-là. Et c'est important de pouvoir avoir Dieu dans sa vie, évidemment, mais aussi de pouvoir le partager avec quelqu'un de confiance. Le fait de pouvoir le dire à un autre être humain sans se sentir jugé ou rejeté constitue le prélude à la guérison. La personne ne te jugera pas parce que la personne, elle a une maturité spirituelle. Elle connaît les mensonges de l'ennemi. Elle connaît les Écritures et elle saura te dire « Non, là, c'est pas bon ce que tu penses. Là, c'est pas comme ça qu'il faut penser. » Parce que là, tu es en train de donner du crédit aux mensonges de l'ennemi. Le psaume 32 nous dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Souvent, les gens, à cause de la honte, ils intériorisent tout ça et ils le vivent seuls, en pensant qu'avec le temps, ça va s'arranger. Mais regardez le psaume. C'est David qui s'était retrouvé en position de meurtrier. Et il dit ceci, « Tant que je me suis tu, c'est-à-dire tant que j'ai gardé ça secret, tant que j'ai gardé ça au fond de moi. » Regardez la puissance du mensonge et de vouloir cacher les choses. Mes os, ça touche les os, mes os se consumaient. C'est de l'intérieur que tu te détruis. Cet acte, ça s'appelle une confession. C'est une arme divine, puissante. Jacques nous dit ceci, « Confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez guéris. » Se libérer de la honte passe par le pardon. Lorsque les sources sont clairement identifiés, que nous avons mis le doigt sur les causes de notre honte, mais aussi sur ceux qui ont été à l'origine de toute cette honte et que l'on change notre narratif. C'est-à-dire qu'on se rappelle que chacun de nous, malheureusement, a été victime du péché. Quand on commence à changer tout ça, alors le temps du processus du pardon peut prendre place. Et je dis bien le processus. Parce que si vous allez trop vite, vous allez croire que vous l'avez pardonné la personne et vous ne l'avez pas pardonné. Donc c'est un processus qui prend place. On a besoin de pardonner pour se libérer de notre passé et retrouver notre liberté. L'antidote de la honte, c'est la grâce. Si l'amour est l'antidote de la peur, la grâce de Dieu est l'antidote de la honte. La grâce et le pardon, c'est-à-dire la miséricorde, sont intimement liés et participent à la guérison. Recevoir la grâce de Dieu sur ta vie. La grâce de Dieu, c'est le cadeau de Dieu pour toi. Recevoir cette grâce-là qui te pardonne, qui nettoie ton passé, qui tourne la page, qui t'offre une nouvelle vie avec lui. C'est la grâce de Dieu. Et ça peut paraître quelquefois difficile à accepter, mais c'est là que tu lâches. C'est là que tu lâches les gens. C'est là que tu donnes ton pardon dans un processus parce que tu veux changer de vie. Tu veux vraiment rentrer dans cette nouvelle vie et pas être victime de ton passé toute ta vie. La grâce procure la guérison parce que, par définition, elle offre aux gens remplis de honte ce qu'ils désirent le plus, être acceptés sans condition. Être accepté comme tu es. Tu vas confesser à la personne et cette personne-là, elle ne va pas te juger. Cette personne-là, elle va te soutenir. Cette personne-là, elle va t'encourager. Cette personne-là, elle ne va pas regarder à ce que tu as subi ou à ce que tu as fait. Elle va juste te dire, elle va être l'ambassadeur de Christ. Elle va juste te dire, Christ t'aime. La grâce, c'est un don. C'est un don. Tu le reçois comme un don. C'est un cadeau totalement gratuit. C'est le don d'être accepté avant d'être acceptable. C'est recevoir le pardon gratuit de Dieu. C'est recevoir l'amour inconditionnel dans notre cœur. C'est écrire la suite de notre vie sur une nouvelle page blanche qui va prendre forme avec le Saint-Esprit, la puissance qui agit en toi. C'est un cadeau. Oui, t'as sans doute subi comme tout le monde des choses peut-être atroces, peut-être horribles, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie. Mais tu vois, aujourd'hui, là, Dieu te fait un cadeau. Il te dit, ensemble, on va recommencer une nouvelle page. Alléluia. L'espoir est là. L'espoir est avec Christ. Et tu as une belle vie encore à vivre avec Christ. Ne te laisse pas emprisonner par les mensonges du diable. Si la honte nous détruit, la grâce nous reconstruit. Si la honte nous a volé notre enfance, la grâce nous redonne le goût de vivre. Si la honte nous a déformés, la grâce nous reforme à l'image de Jésus-Christ. La honte nous a rendus indignes. La grâce de Dieu nous rend notre dignité et notre valeur. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Jésus, à la croix, dans toutes les blessures, dans toutes les sévices qu'il a subies tout à l'heure, on l'a dit, il a porté ta honte. Il a porté ta honte. Aujourd'hui, tu n'as plus à avoir honte parce que Jésus a porté ta honte. Guérir de la honte en acceptant sa grâce vous permettra de surmonter la mauvaise estime de vous-même et de retrouver une juste confiance en vous, de faire la paix avec vous-même, d'accepter l'humanité, d'accepter les choses qu'on a expliquées depuis quatre soirées, d'accepter la réalité de la vie. On ne l'a pas choisie, cette vie-là. Elle nous est imposée. Il faut l'accepter. Il faut faire le deuil de ce qu'on aurait voulu. Souvent, je prends cette comparaison, et tous, on aurait voulu vivre dans un monde de bisounours, où tout le monde s'aime, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Mais ce n'est pas ça, la vie. Ce n'est pas ça, la vie. La vie, elle est remplie de mal, malheureusement. Et nous, on est là pour être des ambassadeurs, pour amener l'espoir à travers ces ténèbres, à travers ce mal. On amène l'espoir déjà dans notre vie. Nous guérissons nous-mêmes. Et après, nous allons donner cette vie à ceux qui nous entourent. C'est ça la revanche. La revanche, c'est de dire à notre ennemi, oui, tu as voulu me détruire. Oui, tu as failli réussir. Mais aujourd'hui, là, regarde, aujourd'hui, je suis en Christ. Aujourd'hui, je suis un ambassadeur de Christ. Et aujourd'hui, tu as voulu transformer ça en mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Amen. On continue l'inventaire. Je reviens à ma tablette. Pour la conclusion. Oh là, il y a beaucoup. Et voilà. À l'étape 3 et 4, c'est là où on est là. Nous continuons l'inventaire de notre vie. On a commencé la semaine dernière. On continue. On continue à mettre à jour. Parce qu'on ne veut plus subir ces dysfonctionnements. On met tout à jour. Parce qu'on va nettoyer tout ça. Le Seigneur va nettoyer tout ça. Et après, tout ça fera partie de notre passé. Amen. Nous continuons l'inventaire de notre vie. En la confrontant à la vérité et la compréhension des Écritures. En vue de faire le grand nettoyage qui nous permettra de ne plus traîner notre passé comme un boulet, mais de vivre pleinement dans cette nouvelle vie que nous offre Jésus. Il nous faut faire face à notre réalité en approfondissant la connaissance de qui nous sommes, identifier nos conduites qui nous mènent toujours plus vers un chemin de destruction, faire preuve d'humilité, décider d'aller de l'avant en regardant notre histoire en face. On reste dans ce défi. Introspection, on regarde tout ce qui s'est passé en nous, on regarde nos conduites, on regarde nos dysfonctionnements, on regarde ce qu'on a hérité. Et le mot-clé, c'est examiner tout ça. Et on ira dans des étapes de guérison, dans des étapes de pardon. Et on parlera aussi de ce qu'on a reçu aussi et que peut-être on n'a pas conscience. Hein, qui sont les liens. Hein, on reçoit des choses de génération en génération, mais il faudra aussi parler de ce que l'on reçoit spirituellement qui peuvent entraver notre vie et qu'on n'a pas toujours conscience. Les liens ancestraux, les liens d'âme, les alliances qui ont été faites, ceux qui ont touché à la sorcellerie, ceux qui ont touché aux ténèbres et tout ça, eh ben, il faudra regarder tout ça parce qu'il y a aussi besoin de délivrance dans ce domaine-là. On ne peut pas être guéri si on garde des liens avec ces choses que peut-être on ne connaît même pas, hein, qu'on a subi. Mais vous savez, plus particulièrement à La Réunion, ce sont des habitudes, des rituels qui sont faits. Et tout cela crée des alliances avec les ténèbres. J'aurai l'occasion de vous expliquer ça en détail parce qu'il faudra aller vers des prières de guérison. Parce que quelquefois, eh ben, on peut subir ça sans le savoir et être dans des états quelquefois dépressifs, dans des états quelquefois de fatigue où la médecine ne voit pas pourquoi, mais en fait les origines sont spirituelles. Donc on aura l'occasion de voir tout ça aussi. Ça vous va ? Hein ? Ah bien sûr, bah, oui, tout à fait. Mais il faut tout simplement mettre ça dans les mains de Dieu, prier pour la délivrance. Tu es un enfant de Dieu. Une fois que tout ça a été brisé, il n'y a plus de droit. Devant le tribunal de Christ, les papiers sont déchirés, c'est fini, il n'y a plus de droit. Donc tout ça, il faudra le mettre parce que malheureusement, quelquefois, eh ben, ce sont comme des oppressions, ce sont comme des entités qui nous oppressent et qui fait qu'on ne comprend pas pourquoi on n'est pas bien, pourquoi on est mal. Et c'est d'origine spirituelle. Voilà, ça sera une autre partie de la guérison. Amen. Ça va bien ? Amen. Quelle heure il est tard ? Oh, super, 20h, mais putain, j'arrive à tenir mes délais cette année, c'est cool, hein ? Je vais prier pour vous, ok ? Et puis on va se séparer, on se dit à vendredi prochain. Et puis travaillez, hein, je vous encourage, mettez pas ça de côté, parce que si vous faites ça de côté, vous serez juste spectateur et vous aurez écouté quelques enseignements, mais ça ne va pas transformer votre vie. Donc faites le travail sérieusement pour qu'il y ait vraiment une vraie transformation de vos vies. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire encore merci pour cette soirée, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci pour ton Saint-Esprit qui met à jour les choses, Seigneur. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est guérir définitivement, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est que le péché n'ait plus d'emprise sur nous, que notre passé n'ait plus d'emprise sur nous. Nous voulons vraiment être libres. Ce que tu as, tes promesses que tu as, que tu nous as données dans ta parole, que nous soyons vraiment libres, que nous ayons cette vie de paix, cette vie en abondance, Seigneur. Nous voulons goûter à cette vie-là, nous voulons la prendre, cette vie-là. Nous voulons la vivre, cette vie-là. Oui, Père, nous voulons vraiment aller de l'avant avec toi. Seigneur, par ta puissance, ton Saint-Esprit à l'instant même, Seigneur. Je prends autorité, mon Dieu Tout-Puissant, je prends autorité pour que la guérison prenne place dans les cœurs maintenant, Seigneur. Que les blessures du passé ne soient plus, Seigneur. Je prends autorité maintenant, Seigneur, pour que ta vie coule dans notre vie, Seigneur. Une vie de guérison, une vie d'amour, une vie qui nous amène la paix, une vie qui nous amène la joie. Seigneur, je prends autorité maintenant sur tout ce qui est ténébreux encore dans notre vie, et que ces ténèbres soient chassées dans le nom puissant de Jésus. Que la lumière de tes écritures nous pénètre aujourd'hui, que nos raisonnements changent, que nos conceptions changent, et que nous soyons alignés avec le Saint-Esprit, que nous soyons alignés avec tes écritures, et que toute pensée qui viendrait encore nous perturber, nous les lions et nous les amenons captifs à Jésus-Christ. Seigneur, délivre ton peuple, Seigneur, maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de cette délivrance, Seigneur, afin que nous ne soyons plus esclaves de l'ennemi, de ce qui veut nous détruire, que nous puissions refléter ta vie, Seigneur, et que cette vie, nous puissions la communiquer autour de nous, la communiquer à nos enfants, la communiquer à nos proches. Ah Seigneur, je compte sur ta grâce. La guérison est là. La guérison est sous tes ailes. Et le royaume de Dieu, il s'approche maintenant de chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonne soirée. À vendredi prochain. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia.